Vous écoutez RTL.
RTL, il est midi et demi.
RTL midi.
Le 12-30, Vincent Parisot, Christelle Rebière.
Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver. Merci de nous rejoindre, c'est RTL midi jusqu'à 14h. Soyez les bienvenus, c'est votre rendez-vous évidemment pour commenter en direct l'actualité. Bonjour Christelle.
Bonjour Vincent, bonjour à tous.
On vous le rappelle, vous êtes nos experts pour dialoguer et on vous attend dès maintenant au 3210. Vous pouvez, vous le savez également, aller sur notre page Facebook RTL. Les auditeurs ont la parole. Alors l'actualité Christelle, c'est cette tension extrême en prison.
Deux gardiens blessés, dont l'un grièvement à la prison corse de Borgo. Des surveillants chargés par des CRS devant la prison de Fleury-Mérogis. La réunion en ce moment autour de la garde des Sceaux est tendue. Nous y reviendrons avec l'un des participants, le représentant du syndicat majoritaire UNSA-UFAP, qui sera l'invité d'RTL Midi. 26 personnes radiées de l'éducation nationale après avoir passé au crible les casiers judiciaires d'un million d'agents. 26 personnes qui avaient déjà été condamnées pour des infractions sur mineurs ont donc été écarté. Dans RTL Midi aussi, les vœux aux armées d'Emmanuel Macron. Il promet un effort inédit et incomparable pour la défense et a bien l'intention de mettre en place un service national universel. 90 jours en moyenne, c'est le délai d'attente pour avoir un rendez-vous chez l'ophtalmo. En progrès, mais peut mieux faire. Et nous comptons sur vos témoignages au 3210. Et comme tous les vendredis, nous parlerons auto avec notre spécialiste Christophe Bourroux. Le marché de l'électrique ne s'est jamais aussi bien porté et PSA veut développer cette version pour tous ses modèles. Si ça vous tente ou pas, dites-le nous 3210. La météo, bonjour Patricia Charbonnier.
Bonjour.
Le soleil est définitivement aux abonnés absents.
On le retrouve seulement près de la Méditerranée cet après-midi avec un temps calme, mais ça souffle quand même assez fort jusqu'à 80 km/h en rafale partout ailleurs. On est toujours sous les nuages, sous l'instabilité, forte instabilité même cet après-midi entre le nord-est, le nord de la région Rhône-Alpes, le massif central et le sud-ouest avec donc des averses même de pluie et de neige mêlées dans la partie nord-est, de la neige en montagne, quelques éclaircies sur le nord-ouest, mais toujours avec un risque d'averse. Et puis les températures sont fraîches cet après-midi. Seulement 7 degrés à Lille comme à Strasbourg, 8 à Paris, 10 degrés à Lyon, 13 à Biarritz et 17 à Bastia.
Et vous reviendrez évidemment avant 13h, hein, Patricia Charbonnier. Après 13h, ce sera notre histoire. Un jour sur la Terre, ce jour, c'était le 31 décembre dernier. Un réveillon cauchemar pour des centaines de personnes dans le Var. Évidemment, avant 14h à 13h50, on rira beaucoup grâce à Laurent Gérard. Et puis pour rebondir sur cette météo bien grise de Patricia Charbonnier, eh bien la question du jour, elle concerne justement le ciel. Souffrez-vous du manque d'ensoleillement? C'est la question qu'on vous pose. Et vous êtes 72% à nous dire oui, 25% de non. Évidemment, vous continuez à voter. Pour ça, vous allez sur rtl.fr. Et puis, on peut en parler dès maintenant de ce blues du ciel gris, comme l'a fait Odile, une auditrice lyonnaise.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Ben effectivement, on finit par souffrir d'un manque d'ensoleillement. Et à Lyon, c'est vrai que ça fait déjà très longtemps qu'on n'a pas vu de soleil. Il fait gris, c'est triste. Je pense que quand c'est comme ça, on a moins d'allant. Alors c'est vrai que quand on n'a pas de soleil naturel, au bout d'un moment, on finit par pas déprimer. On va peut-être pas aller jusque-là. Enfin, pour ma part, pas déprimer. Mais quand même, si on en avait un petit peu, on serait nettement mieux.
Appelez-nous au 3210. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Est-ce l'agression de trop une semaine après l'attaque par un djihadiste de trois gardiens à la prison de Vendin-le-Vieil, après Mont-de-Marsan, après Tarascon, et alors que les syndicats sont reçus ce matin par la garde des Sceaux, deux gardiens ont été blessés, dont l'un gravement à la maison d'arrêt de Borgo en Haute-Corse. Olivier Bois, une agression extrêmement violente de la part de trois détenus, dont l'un était suivi pour radicalisation.
Oui, un homme qui était condamné à la base pour des affaires de droit commun, mais qui effectivement avait été signalé depuis des mois comme en cours de radicalisation, à tel point que certaines de ces conversations téléphoniques jugées inquiétantes avaient été transmises récemment à la procureure de la République. Alors malgré ce profil de radicalisé récent, il est trop tôt pour parler de revendications ou d'attaques terroristes. La procureure de Bastia va donner tout à l'heure une conférence de presse. En tout cas, effectivement, l'agression a été extrêmement violente ce matin. Maxime Coustier est le délégué UFAP en Corse.
Un collègue était dans son bureau, il a senti une présence et quand il s'est retourné, l'individu l'a attaqué avec un objet, alors de nature, je ne sais pas encore si c'est un couteau, une arme artisanale, je ne sais rien. Au niveau du visage, il a réussi à parer un peu les coups, du coup il a plusieurs entailles au niveau du bras et du dos. Donc oui, c'est très grosse agression et on est à... Pour moi, je le dis haut et fort, sur une tentative d'assassinat.
Alors, un deuxième surveillant qui a secouru son collègue a aussi été blessé. Les deux hommes ont été hospitalisés, mais leurs jours ne sont pas en danger. Quant aux trois détenus qui ont participé à l'attaque, ils ont été interpellés après s'être retranchés quelques heures dans leur cellule.
Merci Olivier Bois. En tout cas, vous l'avez dit, cette nouvelle agression intervient dans un climat d'extrême tension, alors que les gardiens sont en grève depuis une semaine dans la plupart des établissements pénitentiaires. Et d'ailleurs, il y a eu des incidents violents ce matin avec les forces de l'ordre devant Fleury-Mérogis, la plus grande prison d'Europe. Écoutez Thierry Capel, il est le délégué des faux pénitentiaires.
Les choses ont dégénéré rapidement. Les CRS ont reçu les ordres de charger. Il y a eu un échange de gaz lacrymogène et de coups. Ce qui est particulièrement regrettable, c'est qu'aujourd'hui, ce sont des forces de l'ordre qui manifestent et on envoie des forces de l'ordre pour les maîtriser. C'est un spectacle absolument honteux pour la République. Nous n'avons pas le droit de grève, hein, donc nous sommes obligés de passer par ce genre d'action. Maintenant, la réalité, elle est celle-ci. Vous avez un cruel manque sécuritaire sur tous les états de France, que ce soit au travers des effectifs ou des moyens matériels, il faut que ça s'arrête. Franchement, il faut que ça s'arrête, parce que même si on est en train de manifester, c'est non-stop les coups, les insultes, les prises d'otages, les agressions, et que ce soit de la part de détenus de droit commun comme de détenus radicalisés.
Voilà, Thibaut Capel de FO Pénitentiaire avec Raphaël Vantard. Tout ça, donc, au moment où la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, reçoit les syndicats pour évoquer le nouveau plan pénitentiaire que souhaite Emmanuel Macron. Parmi les représentants syndicaux, Nico, il y a David Besson de l'UFAP, une sage justice, qui va profiter dans quelques minutes d'une suspension de séance pour être en direct l'invité d'RTL Midi.
26 personnes radiées de l'éducation nationale pour des infractions sur mineurs, on vient de l'apprendre. Ces sanctions ont été prises à l'issue du contrôle général des casiers judiciaires de ceux qui travaillent dans le monde de l'éducation. Ce contrôle avait été décidé, on s'en souvient, Marie Guerrier, après l'épouvantable affaire de pédophilie de Villefontaine dans l'Isère.
Oui, et depuis février 2016, l'Éducation nationale s'est lancée dans un contrôle systématique donc de ses casiers. 1 million de dossiers, presque tous ont été passés au crible, indique le ministère, et donc 26 cas mis au jour en 2017, 26 personnes déjà condamnées pour atteinte sexuelle sur mineurs, violence sur mineurs, et aussi détention d'images pédopornographiques, des faits parfois anciens commis hors du cadre scolaire. Alors cela concerne des profs et d'autres catégories de personnel. Le ministère ne donne pas plus de détails. La majorité d'entre eux ont déjà été radiés, mais certaines procédures sont encore en cours. Il y avait déjà eu 30 radiations en 2016.
Les explications de Marie Guerrier.
Emmanuel Macron est toujours en train de présenter ses vœux aux armées, ou plutôt il vient de le faire. Là, ça vient de se terminer. C'est un moment toujours très attendu, évidemment. Et là, particulièrement, après un début de quinquennat compliqué, marqué par la démission du chef d'état-major des armées, le général Pierre de Villiers. Le président de la République était donc ce matin à Toulon pour présenter ses vœux et il a tout d'abord annoncé que la mesure qu'il avait présentée lors de sa campagne se fera, une mesure qui lui tient particulièrement à cœur, le service national universel.
Madame la ministre, mon général, messieurs les chefs d'état-major, les mois qui viennent nous conduiront à pleinement finaliser cette loi de programmation militaire et s'ouvrira un nouveau chantier, celui du service national universel. Et je veux ici rassurer chacun, il sera mené à son terme, il entrera à bon port, il sera conduit par l'ensemble des ministères concernés et pas simplement celui des armées. Il aura un financement ad hoc qui ne viendra en rien impacter la loi de programmation militaire qui vous sera prochainement dans le détail présentée.
Emmanuel Macron avec Pierre Julien. L'abandon du projet Notre-Dame-des-Landes est une erreur. C'est ce qu'a déploré Manuel Valls ce matin sur RTL. Il y a eu un choix qu'il aurait fallu respecter, a-t-il dit, et il redoute que cette décision ne légitime ce qu'il appelle des minorités violentes et radicales. Un député doit être correctement vêtu. Un dress code va figurer officiellement dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. L'insoumis François Ruffin était apparu, on s'en souvient, il y a quelques semaines encore, avec le maillot d'un club de foot. Rappel à l'ordre. Et l'obligation au passage de verser le quart de son indemnité mensuelle.
Vous avez demandé un rendez-vous chez l'ophtalmo, ne quittez pas, mais on vous prévient, l'attente sera longue, en tout cas plus que la pub qui elle sera courte. À tout de suite.
RTL Midi, Christelle Robière, Vincent Parizeau.
Il faut attendre en moyenne 90 jours pour obtenir un rendez-vous chez son ophtalmologiste. Le délai s'améliore lentement. On était encore à 117 jours l'an dernier. Depuis que les orthoptistes ont été autorisés à prendre le relais, l'étau se desserre, mais pas pas partout, comme vous avez pu le constater à Caen, Julien Caillard, où il faut compter parfois jusqu'à 6 mois d'attente.
Oui, pas simple à Caen de voir un ophtalmo, Céline, la secrétaire de l'un d'entre eux.
Les délais d'attente au minimum sont de 6 mois, et sachant que nous, on a des patients qui viennent de l'Orne, de la Manche, de l'Eure, de la Mayenne, parce qu'il n'y a plus personne, et que malheureusement, dans ces régions-là, il y a 12 mois d'attente. Il faut gérer l'agressivité des gens, il faut gérer les patients qui ne comprennent pas qu'on est obligé de serrer les rendez-vous 12 patients à l'heure.
Un rendez-vous toutes les 5 minutes.
À peu près, voilà. C'est du délire. On est obligé d'aller chercher des médecins aussi dans les pays de l'Est. C'est le cas ici, où le docteur vient de Roumanie.
Une origine qui ne pose pas de problème.
Du tout. Et je me dis, heureusement qu'elle est là.
Pascal impatient.
J'ai pris mon rendez-vous au mois de septembre. Mais encore, il y avait un trou. Sinon, ça repoussait au mois de mars. C'est infernal. On s'habitue à la longueur. C'est-à-dire qu'il faut prévoir 6 mois à l'avance pour prendre un rendez-vous. Quand il y a des urgences, effectivement, là, ça pose vraiment problème.
Vous réclamez plus d'ophtalmologistes?
Bien sûr.
Ici, la demande est récurrente. Un cabinet d'ophtalmologie pédiatrique de Caen me disait tout à l'heure qu'il fallait compter 14 mois pour obtenir un rendez-vous.
Ah oui, quand même. Merci pour ce reportage, Julien Caillard. On l'a bien compris, 90 jours, c'est donc une moyenne. Hein, et à Caen, visiblement, on aimerait bien n'attendre que 3 mois. Alors, vous êtes ophtalmo, orthoptiste, vous faites partie des 37 millions de Français qui portent des lunettes. Vous pouvez peut-être témoigner de cette légère amélioration, ou au contraire, dans votre région, c'est peut-être toujours aussi long. En tout cas, on vous attend pour nous le dire dès maintenant au 3210.
Les éleveurs de volailles touchés par la grippe aviaire l'année dernière toucheront 65 millions d'euros. C'est le montant de la compensation autorisée à l'instant par la Commission européenne. Le marché automobile a définitivement mis les doigts dans la prise. Près de 31 000 véhicules électriques ont été immatriculés l'an dernier dans notre pays. C'est un record. Autre signe qui ne trompe pas, le groupe PSA va proposer une version électrique de tous ses modèles d'ici à 2025. Christophe Bourou, le marché est vraiment en train de décoller.
Oui, plus 13% l'an dernier. Certes, cela ne pèse que 1,4% du marché du neuf, qui est de 2 millions. Mais le mouvement est bien là, d'autant que les constructeurs passent la vitesse supérieure. Très en pointe sur le sujet, Renault a pris une bonne longueur d'avance avec la Zoé, qui est la voiture électrique la plus vendue dans l'Hexagone. Spécialiste du diesel, PSA veut donc rattraper son retard en annonçant qu'il allait concevoir et produire en France ses propres moteurs électriques à partir de 2022, avec aussi au moins une déclinaison électrique pour toutes les gammes dans 7 ans. Alors impossible aujourd'hui de faire l'impasse, surtout avec la restriction de la circulation dans les villes et en ce début d'année la flambée à la pompe du prix du carburant qui devrait donner un sacré coup de fouet à l'électrique.
Merci Christophe Bourou, mais votre journée de travail n'est pas terminée, vous le savez. Vous allez revenir après 13h avec nous et avec les auditeurs d'RTL pour évoquer ces succès de l'électrique. Et puis vous, évidemment, dites-nous si vous y êtes passé à l'électrique, si vous envisagez de le faire prochainement, si vous êtes encore réticent et pourquoi. On en parle tous ensemble. Est-ce que dans 10 ans, par exemple, vous imaginez que votre voiture sera électrique? Allez, 3210, on vous attend.
Enfin, on en a marre.
De quoi? Ah oui.
Entre les tempêtes, les orages et le brouillard, le soleil brille par son absence. On a perdu jusqu'à 37 heures d'ensoleillement à Aurillac, 23 heures à Abbeville, c'est du jamais vu depuis 27 ans là-haut. 12 heures de moins dans la capitale aussi. Quentin Vinet, vous êtes au parc Georges Brassens à Paris, dans le 15e arrondissement, où les Parisiens sont sur le point de lancer un avis de recherche pour le soleil.
Oui, il y a encore les sapins de Noël à l'entrée de ce parc parisien avec le froid, le ciel gris et les flaques d'eau. Le décor est parfaitement hivernal, ce qui déplaît à Paulette, un peu frigorifiée.
Parce qu'on aime mieux avoir du soleil, le temps sec. Moi, j'aimerais mieux avoir un temps très froid, parce que c'est beaucoup plus sain que cette pluie qui nous crée de l'humidité. C'est très désagréable. Mais la nature a besoin de flotte. Hein. La nature a besoin d'eau. Je ne vous vois pas partir en petit shirt comme ça, sous la pluie. Hein. Non, on a besoin d'être très couvert.
Et c'est avec un gros manteau et une capuche que Akima traverse le parc pour rentrer chez elle. L'air déprimé en ce moment, elle le reconnaît.
On se lève le matin, on a envie de prendre son petit déjeuner, ouvrir les fenêtres. Tiens, il y a du soleil, oh, c'est super et tout. Mais quand il fait gris, toute la matinée, vous avez la lumière allumée. On n'a pas le moral, non? C'est psychique, oui, c'est comme ça, hein. On est pas regardé. Ah, mauvais temps, hein. Et voilà.
Et ce mauvais temps, il y a un monsieur qui a l'air de s'en satisfaire ici, c'est un Irlandais, mais lui, il m'a dit que la pluie, il en avait l'habitude.
Quentin Vinet, dites-nous au 3210 si vous le souhaitez, comment vous faites pour garder du soleil dans la tête malgré tout. Oui. Sachez qu'à l'autre bout du monde, en Australie, les joueurs de tennis souffrent de la canicule à Melbourne.
Oui, Alizé Cornet a été éliminée au troisième tour, après être passée tout près du malaise, elle a même dû s'allonger sur le court. C'est donc un gros coup de chaud, et elle pense d'ailleurs, et elle le dit, vous l'entendrez tout à l'heure à 13h, qu'il faudrait peut-être que les organisateurs y réfléchissent. En tout cas, pas d'excuses de chaleur pour Tsonga, puisqu'il jouait de nuit à Melbourne, et il vient de se faire sortir au troisième tour par l'Australien, justement, Kyrgios.
Dans un instant, on revient sur la colère des gardiens de prison avec l'invité d'RTL Midi.
RTL Midi, Christelle Rebière, Vincent Parisot.
Invité d'RTL Midi, David Besson, secrétaire général adjoint de l'UFAP-UNSA, c'est le syndicat majoritaire chez les gardiens de prison. Bonjour.
Bonjour.
Vous participez d'ailleurs en ce moment aux négociations avec la garde des Sceaux. Vous avez profité d'une suspension de séance pour être avec nous et on vous en remercie. Tiens, d'ailleurs, cette suspension de séance, David Besson, elle est liée à ce qui s'est passé ce matin à Borgo, en Corse, où on le rappelle, deux gardiens ont été agressés, blessés, dont l'un grièvement.
En partie. Alors déjà, d'une part, les négociations s'effectuent avec le directeur de l'administration pénitentiaire et non pas avec notre ministre fantôme, qui est totalement absente des négociations.
Elle n'est pas avec vous, elle ne discute pas avec vous.
Absolument pas. On nous annonce
sa présence. Ce n'était pas prévu au départ, vous étiez venu la rencontrer. Hein.
Tout à fait, sa présence nous est annoncée cet après-midi. Donc, ce matin, les négociations ont démarré, mais il a fallu faire état de la situation de Florimé Rogis, où les personnels pénitentiaires devant les portes ont été violentés par les CRS. Et ensuite, nous avons commencé à négocier par rapport aux propositions qui nous est faites par le gouvernement concernant les emplois, ou bien que là, ça ne va absolument pas. Nous réclamons le remplacement de tous les personnels de tout corps et grade confondu qui manquent sur les organigrammes sur tout le territoire et là le compte n'y est pas.
Ça
ensuite
veut dire,
il y a eu la tentative d'assassinat sur nos deux collègues de la maison d'arrêt de Borgo où ça nécessitait une nouvelle suspension par un détenu radicalisé et ensuite là on vient de reprendre mais le document qui nous a été mis sur la table ça va pas. Donc là, il y a une suspension et on va faire des contre-propositions que nous allons remettre au directeur de l'administration pénitentiaire qui a été mandaté par le gouvernement. Ouais. Et nous verrons fortement, on espère fortement que Matignon va comprendre parce que là, sur l'ensemble du territoire, les personnels d'eux-mêmes ne supportent pas, d'exercer leur mission et les tâches qui leur incombent dans une insécurité totale.
C'est-à-dire que vous dites ça ne va pas, on est loin du compte. Ça veut dire on est loin du compte pour calmer aujourd'hui les personnels pénitentiaires.
Tout à fait. Les personnels pénitentiaires exercent leur mission dans une insécurité totale. Il y a un manque crucial d'effectifs de tout corps et grade confondu, ainsi que les moniteurs de sport, les spécialistes. Et à ce titre, nous demandons, et on ne joue pas de surenchère, on demande simplement le comblement des postes vacants sur l'ensemble des établissements pénitentiaires.
Ça représente combien de personnes ?
Écoutez, je ne jouerai pas la surenchère par rapport aux chiffres. Là, l'administration nous propose à peine 600 postes. C'est inacceptable. Je dis bien inacceptable. Et par rapport à la tentative d'assassinat qui a eu lieu ce matin, je me répète, les personnels pénitentiaires, il faut que vos auditeurs l'entendent, l'ensemble des établissements pénitentiaires, les personnels sont en train de quitter les prisons.
C'est-à-dire en train de quitter
qu'ils sont en train de fermer leurs étages et sont en train de déposer les clés pour se rendre devant les établissements parce que là c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase.
Donc c'est grève générale ?
Tout à fait.
Avec les conséquences que ça peut avoir, on l'a vu encore hier, par exemple, à Fleury-Mérogis.
Oui, et ce gouvernement, tel qu'ils sont en train de le faire sur la région PACA ou bien sur la région du Nord-Pas-de-Calais, a menacé de sanctions, parce que ce qu'il faut savoir, les personnels pénitentiaires sont assujettis à un statut spécial. Oui. Malgré que le droit de grève est un droit constitutionnel dans ce pays, on n'a pas le droit de faire grève. Et donc, on peut être sanctionné d'un abaissement d'échelon ou bien d'être exclu de 15 jours simplement sur décision du garde des Sceaux. Alors, celle-ci est complètement absente des débats. Donc, on espère que cet après-midi, elle arrivera à se faire entendre auprès du Premier ministre pour obtenir un déblocage de la situation.
Un mot sur les détenus radicalisés, puisque apparemment, celui de Borgo. ce matin, étaient radicalisés. Vous souhaitez qu'ils soient regroupés tous ?
Alors déjà, déjà avant tout, au-delà du regroupement, ce qu'on demande pour les détenus, il y a 70 détenus qui sont gérés dans des quartiers d'isolement. Mmh. C'est les plus dangereux, c'est ceux qui reviennent de Syrie. Ensuite, nous en avons 500 qui reviennent de Syrie et qui sont incarcérés pour des faits de terrorisme. Ceux-là, on demande qu'on puisse les gérer avec une étanchéité totale sur le restant de la population pénale.
Mmh. Restez avec nous, David Besson. On a aussi une auditrice qui voudrait intervenir sur ce thème qui s'appelle Claudie, qui nous appelle de Marseille. Bonjour Claudie.
Bonjour à tous.
Bonjour Claudie, comment
Bonjour
vous
Vincent.
Réagissez ?
Content de vous entendre.
Ah bah moi aussi.
Vous aussi, vous pensez qu'il faudrait créer un centre un petit peu spécialisé ?
Oui, alors écoutez, parce que nous, on entend les informations. Normalement, les détenus les plus dangereux sont en prison. Et on entend que même en prison, ils arrivent encore à attaquer des gardiens de prison. Vu de là, vu de la rue, je veux dire, c'est totalement surréaliste. Donc en fait... je pense que le président Macron devrait vraiment réaliser que c'est dramatique de même pas pouvoir gérer des gens, même en prison. Mmh. Ils sont dangereux pour des gardiens de prison qui gagnent pas énormément d'argent, qui sont des pères de famille, qui vont travailler la boule au ventre, comme on a vu dans les informations. Mmh. Et on est un peu scandalisé de voir que pour aller travailler, on risque sa vie.
Bien sûr.
Donc, effectivement, moi je serais pour la création... d'un centre en France qui ressemblerait pas, comme disait l'auditrice, la standardiste à Alcatraz, mais quelque chose, un quartier beaucoup plus sécurisé, de haute sécurité, où on ne mélangerait pas des gens comme Salah Abdeslam ou des gens très très dangereux qui ont envie de détruire tout le monde avec des voleurs de voitures, des braqueurs de banques, des gens qui n'ont pas payé leurs impôts.
Donc il faut créer des centres spécialisés, vous dites Claudie. Merci d'être intervenu, David Besson. On a bien compris que pour vous l'urgence c'était des effectifs et que le mouvement est en train de s'intensifier et de se cristalliser dans toutes les prisons du pays.
Voilà, et on a noté aussi que si vous avez discuté pour l'instant avec le représentant de l'administration pénitentiaire, vous attendez maintenant d'avoir face à vous directement la garde des Sceaux, Nicole Belloubet. Ce devrait être fait cet après-midi. Merci beaucoup.
RTL Midi.
La météo, Patricia Charbonnier, avec cet interminable défilé de perturbations.
Aujourd'hui, on est entre deux perturbations, encore une fois, avec un ciel de traîne sur une bonne partie du pays. Ça reste très nuageux cet après-midi encore, entre le nord-est, le nord de la région Rhône-Alpes, le massif central et le sud-ouest, avec donc dans toute cette zone des averses localement fortes. Un petit peu de pluie et de neige mêlée dans la partie nord-est et de la neige à basse altitude. Les averses seront plus rares et plus localisées sur le nord-ouest du pays. Donc là, on espère quelques éclaircies dans l'après-midi. Et enfin, pour trouver le soleil, il faut toujours prendre la direction de la Méditerranée, où là le ciel est bien dégagé, c'est très ensoleillé pour cet après-midi, mais avec des vents soutenus et des températures qui sont en baisse, on est à peu près dans des valeurs de saison, avec 7 degrés à Lille et Strasbourg, 8 à Paris, 11 à La Rochelle, 13 à Biarritz et 17 à Bastia.
Et alors ce week-end, on l'oublie, on fait comme s'il existait
pas. On verra pas le soleil non plus ?
Non. Pas du tout même. Plutôt la pluie. On va encore
c'est
une fois
aussi,
avoir les dégradations pluvieuses qui vont s'enchaîner tout au long du week-end. Nouvelle perturbation demain qui va traverser quasiment tout le pays. Et encore une fois, les pluies seront soutenues. Elles vont s'accompagner de fortes rafales de vent. Nous aurons sans doute des averses de neige jusqu'en plaine sur le quart nord-est. Encore du soleil en matinée, mais seulement matinée près de la Méditerranée, car dans l'après-midi, l'instabilité va gagner du terrain. Et attention, on attend même de fortes chutes de neige en montagne, notamment sur les Alpes du Nord à basse altitude. Et le vent qui va souffler, le vent qui va se renforcer dans la nuit de samedi à dimanche. Encore une fois, pour souffler en tempête sur l'extrême sud-est, notamment sur les Alpes, le Var, les Alpes-Maritimes et la Corse, avec des rafales localement pouvant dépasser les 100 km/h. Les températures fraîches demain matin, mais elles repartiront à la hausse à partir de demain après-midi.
Merci Patricia.
RTL. Eh bien, il est 13h.
RTL Midi.
Vincent Parisot, Christelle Rovière.
Le tout info des auditeurs ont la parole avec vous, Vincent.
Oui, et avec tout d'abord cette information qui vient d'être officialisée. Une opération très rare a eu lieu il y a quelques jours à l'hôpital Georges Pompidou, Odile Pouget.
Oui, une greffe du visage réalisée en tout début de semaine. C'est une première en ce sens que le patient avait déjà bénéficié d'une greffe du visage, mais il présentait malheureusement un rejet de son greffon, ce qui peut arriver bien sûr lors de n'importe quel potentielle greffe d'organes. Il avait été admis sur liste d'attente fin octobre dernier. Fin novembre, les médecins avaient procédé à une intervention au vu de la gravité de ce rejet et depuis, le patient était en réanimation. Opération donc très complexe qui a commencé lundi en début d'après-midi, qui s'est achevée mardi matin. Il faudra attendre bien sûr plusieurs semaines pour connaître son état de santé. Mais pour l'instant, cette intervention réalisée par l'équipe du professeur Lantieri, le premier français, on s'en souvient, à avoir réalisé une greffe totale du visage, c'était en 2010, montre qu'une retransplantation est possible.
Merci Odile Pouget, on y reviendra évidemment. Une nouvelle agression de surveillants de prison ce matin après Vendin-le-Vieil, Mont-de-Marsan, Tarascon, et alors que des négociations sont en cours, deux gardiens ont été blessés, dont un touché à la gorge d'un coup de couteau par un détenu à la maison d'arrêt de Borgo en Haute-Corse. Ce matin, des incidents avaient éclaté devant Fleury-Mérogis. Les gendarmes mobiles ont chargé de tirer des gaz lacrymogènes. Résultat, des syndicats encore plus remontés et très déçus par les propositions du gouvernement, comme vous venez de l'entendre avec l'un des négociateurs, David Besson de l'UFAPUNSA Justice, qui avait profité d'une suspension des discussions pour s'exprimer sur RTL. Un bilan pas encore définitif du contrôle des casiers judiciaires des personnels de l'éducation nationale. Il avait été mis en place il y a 2 ans après une affaire de pédophilie. À ce jour, le contrôle a permis de relever 26 condamnations pour infractions sur mineurs. Résultat, 26 radiations. Ce contrôle qui vise plus d'un million d'agents sera achevé au second semestre cette année. Le décès de la fillette qui avait été conduite dans le coma par sa mère sous un faux nom et son compagnon à l'hôpital de Bourges le 30 décembre. L'homme et la femme, déjà en détention provisoire, risquent une peine de réclusion à perpétuité. Les faits vont donc sans doute être requalifiés en actes de torture et de barbarie ayant entraîné la mort. Une association Enfance majuscule a par ailleurs déposé plainte. On écoute tout de suite sa présidente, Patricia Chalon.
C'est invraisemblable qu'une petite fille de 6 ans arrive dans le coma à l'hôpital alors que la famille est suivie en assistance éducative, qu'un petit frère a été placé depuis plusieurs mois et que le juge des enfants a ordonné une mesure de placement. Les gendarmes s'étaient présentés plusieurs fois au domicile des parents et ils ne l'avaient pas trouvée. Elle n'allait pas à l'école, il n'y avait pas d'enquête de déclencher. C'est invraisemblable que dans le système de protection de l'enfance, l'urgence soit moins urgente en fait quand il s'agit d'enfants en danger.
Emmanuel Macron l'assure, le service national universel, l'une de ses promesses de campagne, sera menée à son terme. Le président qui présentait ce matin à Toulon ses vœux aux armées précise que le chantier de ce service national sera conduit par l'ensemble des ministères concernés, pas simplement par le ministère des Armées. Il assure aussi que son financement ne viendra en rien impacter la loi de programmation militaire 2019-2025, loi pour laquelle d'ailleurs il annonce un effort inédit et incomparable puisqu'il amènera le budget de la défense à 2% du PIB de la nation. C'est le mauvais choix, voilà ce que pense Manuel Valls de la décision de renoncer à la construction de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. L'ancien Premier ministre était ce matin l'invité d'RTL. Alors certes, il a salué la méthode du Premier ministre et l'écoute dont il a fait preuve, mais sur le fond, Manuel Valls estime que c'est une erreur.
Je pense que c'est une erreur, c'est le mauvais choix d'avoir abandonné. Ce projet était indispensable pour la métropole de Nantes, pour la région Pays de la Loire, pour la Bretagne. Donc je mets en garde, attention, parce que cette décision peut légitimer d'autres formes de violence.
Et puis le tennis à l'Open d'Australie en pleine nuit à Melbourne. Joe Wilfried Tsonga vient de se faire sortir par le 17e mondial, l'Australien Kyrgios, qui s'est imposé face aux Français. 7-6, 4-6, 7-6, 7-6, vous l'avez compris, c'était extrêmement serré, mais donc perdant à l'arrivée pour Tsonga. Perdant également pour Alizé Cornet, qui s'est fait sortir au 3e tour par la Belge Élise Martin. 7-5, 6-4, la Française a failli s'évanouir sur le coup, il faisait 40 degrés. Et puis l'histoire du jour, peut-être, hein, maintenant.
Un jour sur la Terre avec vous, Thomas Proutot, bonjour.
Bonjour.
L'histoire du jour nous emmène à Lacro, dans le Var, où le dîner du réveillon de la Saint-Sylvestre n'est toujours pas digéré.
Oui, tout se présentait pourtant sous les meilleurs auspices pour cette soirée à la salle Bleu Azur. Fiesta toute la nuit, annonçait le flyer, menu terre-mer, restauration non-stop et à volonté. Mais la désillusion a été telle que plus de 156 convives se sont aujourd'hui constitués en collectif de protestation. Ils ont même saisi la DDPP, la Direction départementale de protection de la population. Alors pourquoi une telle rancœur ? Eh bien la désillusion a commencé dès l'arrivée sur les yeux. Une heure d'attente sur dans le froid, hein, simplement pour accéder au vestiaire.
Une heure d'attente
le 31 décembre. Une fois à l'intérieur,
impossible d'accéder aux gourmandises annoncées. Les convives réalisent qu'il n'y a pas de table. Le bar où il faut collecter les assiettes est bloqué par des centaines de personnes. Après 2 heures d'attente, beaucoup jettent l'éponge et rentrent chez eux. Réveillon gâché, carillon de minuit amer. Aujourd'hui, les convives voudraient bien récupérer leur mise, 50 euros par personne. Mais la direction de l'événement, qui reconnaît avoir été un peu débordée, et c'est un euphémisme, leur a simplement proposé un bon repas de 20 euros.
Un jour sur la terre à réécouter sur RTL.fr. Merci Thomas.
Allez, on marque une courte pause et dans un instant, on sera avec le vice-président du syndicat national des ophtalmologistes de France, le docteur Xavier Subirana. Pour parler de quoi ? Eh bien, pour parler de l'attente, cette si longue attente lorsqu'on veut aller chez l'ophtalmo. A tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL.